Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Alors ce matin, nous allons parler du merveilleux nom de Jésus. Et nous allons voir comment Jésus a obtenu ce nom qui est au-dessus de tout nom. Et comment il l'a délégué à son Église. Il a donné une procuration à son Église pour que son Église puisse utiliser ce nom et voir les résultats qui sont en rapport à ce que Jésus a réellement fait à la croix du calvaire. Dieu ne vous appelle pas à une vie médiocre. Dieu vous appelle à porter des fruits, à avoir des fruits en abondance et chaque année à porter plus de fruits, à aller plus loin, à aller plus haut, à marcher davantage dans sa mentalité et à être de plus en plus transformé. Donc c'est important de comprendre ces choses. Et il y a une des clés qui est importante pour arriver à cela, c'est de comprendre ce qui va entourer le nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus nous amène à pouvoir obtenir des résultats, à voir le royaume de Dieu se manifester d'une façon très particulière. Et quand on a une mauvaise compréhension de ce nom, alors on est bloqué. Les choses n'avancent pas dans notre vie. Ou alors nous utilisons le nom de Jésus à mauvais escient, c'est-à-dire de la mauvaise façon. Et ceci, à la limite, peut être dangereux dans nos vies spirituelles. Pour commencer, nous allons lire un texte qui est très connu, c'est dans Philippiens chapitre 2. Et je vais vous montrer certains principes sur les lois spirituelles autour, qui entourent le nom de Jésus. Nous allons voir d'abord comment Jésus a obtenu ce nom. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait avec ce nom? Comment il l'a délégué à l'Église? Et comment nous pouvons l'utiliser? Ce que nous pouvons faire, ce que nous devons faire avec le nom de Jésus? Ça, c'est fondamental pour votre vie spirituelle. Alors, dans chapitre 2 de Philippiens, voilà ce que Paul va nous dire. Il dit: « Ayez en vous la pensée ou les sentiments qui étaient en Christ Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en devenant, en prenant la condition d'un esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Donc nous allons étudier plusieurs choses parce que ce texte est extrêmement riche. D'abord, la Bible va nous parler que Jésus s'est humilié. Il s'est soumis. Il est devenu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Je tiens à vous dire une chose. Vous ne pourrez jamais expérimenter des choses très profondes, des dimensions profondes avec Dieu, si vous n'apprenez pas à marcher dans l'humilité. Et comme je l'expliquais un peu tout à l'heure, l'humilité n'a rien à voir avec l'humiliation. Vous savez, quand nous commençons à goûter certaines choses du royaume de Dieu et la puissance du royaume de Dieu, il faut que notre caractère aille avec. Dieu ne vous amènera jamais dans de grandes dimensions si votre caractère n'est pas travaillé en même temps, parallèle. C'est parfois l'erreur que nous voyons avec certaines personnes ou même avec certains serviteurs de Dieu. Ou parfois ils vivent des expériences très fortes et les gens n'ont pas le caractère qui va avec. Quand vous commencez à apporter des fruits, à savoir utiliser les lois du royaume de Dieu, il va falloir que vous fassiez attention à une chose. C'est à marcher dans l'humilité. Dieu ne partagera jamais sa gloire avec vous. Si vous vivez quelque chose avec le Seigneur, il va falloir que vous soyez prêt à ne prendre aucun atome de gloire. Parce que si vous commencez à vous glorifier, ça va être le début de votre chute. Et le diable vous attendra là au tournant. Parce qu'il verra une grosse faille dans votre caractère. Donc il est très important de comprendre que l'humilité va précéder la gloire, va précéder l'élévation. L'humiliation, nous l'avons vu tout à l'heure, c'est se faire écraser par nos circonstances. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. L'humilité, c'est apprendre à se soumettre aux règles et aux lois divines. Et un des grands fruits de l'humilité, c'est l'élévation divine. Donc quand vous allez commencer à utiliser le nom de Jésus de plus en plus de la façon dont Dieu veut que vous l'utilisiez, ceci va vous amener dans des dimensions beaucoup plus profondes. Mais vous devez faire attention à marcher dans l'humilité. Jésus s'est humilié. Il obéit jusqu'à la mort de la croix. Et à ce moment-là, la Bible nous dit la suite. Comme il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix, verset 8, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom.
Donc
la deuxième chose qu'on voit de ce texte, c'est que Jésus a reçu un nom. Un nom particulier qui va avoir un impact particulier, mais il l'a reçu parce qu'il a fait quelque chose. Comme Jésus a parfaitement réussi la mission du Père, la mission de se donner à la croix pour les hommes, et le Père l'a ressuscité, et Jésus a obéi jusqu'à la croix, à ce moment-là, le Père a pu lui donner le nom qui est au-dessus de tout nom. Parce que Jésus va nous racheter légalement. Nous allons voir certaines choses à propos du sacrifice de Jésus. Donc, il reçoit le nom qui est au-dessus de tout nom. Il le reçoit de qui? Du Père. Parce qu'il a exécuté ce que le Père lui demandait. Maintenant, troisième chose que nous allons tirer de ce texte, c'est qu'il reçoit un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Là, on voit que ce nom de Jésus représente une autorité au niveau du ciel, sur la terre et sous la terre. Donc, on va expliquer ces trois aspects de l'autorité du nom de Jésus. Et vous allez apprendre certaines choses. Et après, il faut que vous appreniez à pratiquer certaines choses. Comment Jésus reçoit ce nom? La Bible nous en parle aussi dans Hébreux 1. Hébreux chapitre 1. Au verset 4, il est dit, en parlant de Jésus, On va lire le verset 3, ça sera plus pratique pour mieux comprendre le contexte. Il est dit, ce fils qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être, soutient toute chose par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien différent ou au-dessus du leur.
Kuko ari ugukayangana k'ubwiza bw'Imana, ubwiza bwayo n'ishusho y'akamerere kayo, kandi ashigikiza byose ijambo ry'ubushobozi bwiwe, ahejeje gushiramo umwuhagiro w'ivyaha, gushiraho umwuhagiro w'ivyaha, abyagira uburyo bw'icubaro c'ubwami bwo mwijuru, amaze kuba uhambaye kurusha abamarayika nk'uko izina rye yarazwe rirengeye ayabo.
Donc Jésus va faire quoi? Il accomplit son œuvre. Il s'assoit à la droite de la majesté divine au troisième ciel. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, il reçoit un nom qui est au-dessus de tout nom. Donc un nom qui va récompenser l'œuvre qu'il a faite. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que ce nom de Jésus est devenu une autorité particulière dans les cieux, sur la terre, sous la terre, parce que c'est attaché à l'œuvre de Christ. Sans l'œuvre de Christ, le nom de Jésus n'était qu'un nom commun. Il y a des personnes qui se nommaient Jésus à l'époque. Parce que c'était un dérivé de Yoshua en hébreu. Josué. Et qui voulait dire sauveur. Et il y avait des Israélites qui nommaient leurs enfants Josué, donc Yoshua. Qui
ne voulaient
ni plus ni moins dire sauveur. Donc c'était un nom commun à l'époque. Alors maintenant, il va falloir que nous comprenions quelque chose. Il y a un principe important qui doit bien être ancré en vous. On en parle assez souvent parce que je veux que ce soit quelque chose que vous appreniez vraiment et que vous sachiez pratiquer dans votre vie spirituelle. Si vous voulez réussir votre vie, vous devez comprendre que Dieu a sa part à jouer, mais que vous-même, vous devez jouer votre rôle, votre part. L'un ne peut pas se faire sans l'autre. Vous ne pouvez pas penser que le fait que de prier Dieu simplement, tout va se produire dans votre vie. Non, il y a des choses que vous devez demander au Seigneur. Et il y a des choses que vous devez faire. Il y a la part de Dieu dans votre vie. Mais vous allez aussi avoir votre responsabilité. Et souvent, les chrétiens ne sont pas tout à fait d'accord avec ça. Ils pensent que simplement, il faut prier le Seigneur et tout va bien aller. Non, pas du tout. Il y a un équilibre entre les deux. Et surtout, depuis que le Seigneur est reparti au ciel, la Bible nous donne une révélation. C'est Paul qui va avoir cette révélation. Nous allons lire ça rapidement dans Éphésiens chapitre 1, au verset 22 et verset 23. Il va y avoir cette révélation du corps de Christ. Il est dit verset 22, il a tout mis sous ses pieds, le Père a tout mis sous ses pieds, les pieds de Jésus, et il l'a donné pour chef, ou littéralement tête. En grec, c'est képhalé, c'est tête suprême à l'Église. Qui est son corps? L'Église est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. La Bible nous révèle clairement que Jésus est la tête et que l'Église est le corps. le corps
umubiri
qui va exprimer normalement ce que la tête décide.
Umubiri nawo ugaragaza kenshi ivyo umutwe wahisemo.
Ça c'est vraiment l'image que Dieu nous donne.
Ikirege chape mari duhaye twerete.
Ceci veut dire que Jésus est assis à la droite du Père.
Ivyerekana ngo Yesu yicaye iburyo bwa data.
Il règne sur son église.
Agaje ku ishengero ryiwe.
Mais l'église a son rôle à jouer.
Ariko ishengero naryo rafite igikorwa rikora.
L'église est sur la terre.
Ishengero riri gaha ku isi.
L'église a un certain nombre de choses à faire.
Rafite ibikorwa bitandukanye rikora.
L'église ne peut pas se reposer en disant bah, Jésus, maintenant, tu vas bosser, nous, on va se reposer. Ça marche pas comme ça. Parce que le Seigneur va nous laisser une mission sur la terre. En fait, quand vous étudiez bien les évangiles, la fin des évangiles, la transition après entre le moment où Jésus va ressusciter et le moment où il va rester un certain nombre de jours avec ses disciples, puis repartir au ciel. On voit très clairement toutes les transitions qui vont se produire. Jésus reste 3 ans et demi à exercer son ministère et à être un modèle. Il montre à ses disciples comment on peut vivre sur la terre. Quelle est l'implantation du royaume de Dieu sur la terre? Qu'est-ce que c'est que la manifestation du règne de Dieu? Ensuite, deuxième phase, il accomplit son œuvre à la croix. Jésus ressuscite. Et il reste plusieurs dizaines de jours à apparaître et à disparaître et à parler à ses disciples. Et juste avant de repartir au ciel, eh bien, il va se passer quelque chose. Il va leur donner des instructions. On trouve ça dans Matthieu. Matthieu, chapitre 24. C'est là où le Seigneur laisse ses dernières instructions. Et aussi, on trouve ça dans Marc 16. C'est la grande mission que Jésus a laissée. Il est dit au verset 18, Jésus s'approcha et parla ainsi, « Tout pouvoir ou toute autorité m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Quand vous lisez l'évangile de Marc en parallèle, Jésus va donner encore des instructions. Là, dans Matthieu, Jésus dit, voilà, maintenant, vous allez faire des nations des disciples. Vous allez enseigner. Et Marc, chapitre 16, Jésus, au verset 15, va leur donner aussi la mission. Ces deux textes sont parallèles, ce qu'on appelle. C'est-à-dire, ce sont deux textes qui sont complémentaires sur la mission que Jésus donne à son Église. Il leur dit, puis allez dans le monde, verset 15 entier, dans le monde entier, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé, ça c'est la nouvelle naissance, qui sera né de nouveau, sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et il leur dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur œuvrait avec eux ou travaillait avec eux et confirmait la parole par des signes qui l'accompagnaient.
Kandi ibimenyetso bizokwaboneka kubizera nibazosinda abadayimoni mu izina ryanje bazovuga indimisha bazofata inzoka nibantu ikirucica ntacho kizobagirana gatonya bazorambika ibiganza kubagwaye abagwaye bakire kandi umwami Yesu aje kubabarira aduzwa mu ijuru avyagira ubujyo bw'Imana abo bavayo bigisha hose umwami Yesu akorana nabo ijambo giwarishingi shiriza intahe ibimenyetso birikurikira.
Donc Jésus envoie ses disciples et envoie l'Église d'une manière générale en disant, moi voilà, j'ai accompli ma mission. Je vais retourner là-haut. Je suis la tête. C'est à vous de bosser maintenant sur la terre. C'est notre responsabilité, c'est à vous et à moi de continuer ce que Jésus a commencé de faire. Mais Dieu soit béni, Jésus ne nous a pas laissé avec rien dans les mains. Il nous a laissés, entre autres avec son nom. C'est ce que nous étudions ce matin. Jésus a reçu ce nom et il va y avoir tout un tas de privilèges qui vont entourer son nom. Et chaque chrétien a le privilège de pouvoir utiliser le nom de Jésus. Alors rappelez-vous d'une chose. D'abord, dans Philippiens, il est dit que le nom du Seigneur a une autorité dans les cieux. Après, sur la terre et sous la terre. Alors d'abord, on va parler dans les cieux. Et là, on va parler de prière. On va regarder dans Jean chapitre 16. Et Jean chapitre 16, Jésus va nous parler de la prière. Il va parler à ses disciples. Et ça, c'est une période un peu particulière pour ses disciples. Parce que c'est la dernière soirée que Jésus va passer avec ses disciples. Où Jésus va être vivant, à vivre dans son corps tel quel avec ses disciples. On est à quelques dizaines d'heures avant le sacrifice de la croix. Et Jésus va leur parler précisément de la prière. Il va leur dire quelque chose de très très particulier. On va lire ça ensemble parce que c'est vraiment très important que vous compreniez cela. Vous avez des privilèges dans la prière. Et ces privilèges, vous devez apprendre à vous en servir. Si vous n'apprenez pas à vous en servir, vous allez avoir des difficultés dans votre vie spirituelle. Jean 16, 23, Jésus dit « En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit complète. » Puis verset 26, il va dire « En ce jour-là, encore une fois, en ce jour-là, cette expression, vous demanderez en mon nom et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. » Le premier domaine où vous devez apprendre à vous servir du nom de Jésus, c'est dans votre relation avec Dieu, donc d'une façon verticale, vers les cieux. Ça, c'est très important à comprendre. Vous avez des privilèges qu'aucun païen ne peut avoir et qu'aucun chrétien qui ne sait pas s'en servir n'a. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas se servir de ce que le Seigneur leur a donné. Ici, Jésus leur dit « en ce jour-là ». En ce jour-là, ça signifie qu'il y a un jour spécial où quelque chose va se passer. Si vous étudiez les enseignements sur la prière du Seigneur, vous verrez qu'au début, par exemple, dans Matthieu 6, Jésus va enseigner cette fameuse prière qu'on a appelée le Notre Père. Et dans les religions traditionnelles, on a pris cette prière juste pour répéter ça tel quel. Alors qu'il y a vraiment des richesses dans cette prière, mais il faut savoir pourquoi elle a été donnée au départ. Mais dans cette prière du Notre Père que nous connaissons tous, Jésus dit Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, etc. Mais Jésus ne parle pas d'utiliser son nom. Il
ne
dit pas, vous priez comme ça, Notre Père, au nom de Jésus, etc. Là, on est tout au début du ministère de Christ. Jésus dit à ses disciples, bah voilà, pour l'instant, avec la connaissance que vous avez, avec l'état spirituel dans lequel vous êtes,
La seule
possibilité que vous avez de prier, c'est comme ça.
3 ans et
demi plus tard, pratiquement, juste avant la croix, Jésus leur dit, en ce jour-là, il y a un jour qui arrive là. Les gars, vous m'avez vu prier pendant 3 ans et demi. Vous avez vu les résultats que j'ai eus. Maintenant, dans le jour qui arrive là, c'est plus moi qui vais prier le Père pour vous. C'est le dernier verset, c'est ce que ça veut dire. C'est plus moi qui vais prier pour que vous puissiez bénéficier de la prière. Pour l'instant, vous n'avez rien demandé en mon nom, mais là, vous allez... ce jour-là, vous allez demander en mon nom et vous allez avoir les résultats. Quelque chose va être ouvert ce jour-là. Et c'est quoi ce jour-là? C'est le jour où Jésus va obtenir un nom qui est au-dessus de tout nom. Là, quand Jésus obtient le nom qui est au-dessus de tout nom, les disciples peuvent, donc les disciples qui vont devenir apôtres,
et
bien, finalement, qu'est-ce qu'ils vont avoir comme privilège? Le privilège de pouvoir se présenter devant le Père et utiliser légalement, avoir le droit légal de pouvoir communiquer et recevoir, demander au Père et de recevoir de la même façon que Jésus avait ce privilège, strictement identique. Rappelez-vous que le christianisme n'est pas une affaire de religion, mais c'est une affaire de citoyenneté et de famille. On a fait du christianisme beaucoup de religions, des trucs qui sont sans valeur et qui ont perdu toute la puissance de Dieu, alors que l'essence même, l'origine même du christianisme, c'est l'histoire d'un roi, d'un royaume, de citoyens d'un royaume et d'une famille royale avec des privilèges. C'est exactement l'optique de Dieu dans le christianisme. Donc les mendiants chrétiens qui viennent supplier Dieu de leur donner quelque chose, ça, ce n'est pas le vrai christianisme. C'est de la religion épouvantable et c'est mépriser ce que Jésus a réellement fait à la croix et c'est ne rien comprendre au privilège que nous avons. Jésus dit à ses disciples,
mais
ce sont des promesses pour nous. En ce jour-là, en ce jour-là, voilà, vous allez demander au Père, il vous le donnera en moment. Pour l'instant, vous n'avez rien demandé, verset 24. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont rien demandé dans le nom de Jésus? Parce qu'ils ne pouvaient pas. Ils
ne
pouvaient pas demander quelque chose au nom de Jésus tant que Jésus n'avait pas obtenu le nom qui était au-dessus
de nous.
Mais Jésus leur dit bien, il va y avoir un jour et ce jour était très proche, c'était quelques jours plus tard. Jésus allait obtenir le nom qui était au-dessus
de nous.
Il va mourir, 3 jours après il va ressusciter, il va obtenir le nom qui est au-dessus de nous et il va ouvrir la relation avec ceux qui seront nés de nouveau, qui seront dans le royaume de Dieu. Et dans Hébreux chapitre 4, Hébreux chapitre 4 nous donne un complément de cela, un magnifique complément, versets 14 à 16. Et il faut que vous compreniez que dans votre relation avec Dieu, vous avez une invitation à venir auprès de lui. Il vous aime et son désir, c'est que vous veniez à lui régulièrement, non pas comme des mendiants, non pas comme des gens bizarres, mais que vous sachiez avoir une relation avec votre Père
céleste
et à grandir dans cette relation. Si vous faites ça, vous allez vraiment beaucoup progresser. C'est très important. Ici, dans Hébreux 4, le Seigneur nous révèle quelque chose de magnifique dans sa parole. Il est dit, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, on parle de Jésus ici, qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, retenons fermement la confession de notre foi, Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui, incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté comme nous à tous égards, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun.
Kumurongo wa 14 nuko ko dufise umuherezi mukuru akomeye yaciye mu ijuru ni Yesu umwana w'Imana ngo tubangirize ibyo twizera tukavyatura tubangirize ibyo twizera tukavyatura kuko umuherezi mukuru dufise atari udashobora kubabarana natwe mu ntege nke zacu ariko nuwageragejwe mu buryo bwose natwe yamarawe nta caha yakoze nuko nitwegere intebe y'ubuntu dushize ubwoba kugira ngo turonke ikigongwe tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiye.
La Bible nous dit ici de nous approcher avec assurance.
Bibiliya tugira ngo twegere dushize ubwoba dushize amanga.
Là ça nous parle de la foi parce que la foi est une ferme assurance.
Uko no kwizera koko kwizera no gushira amanga no gushira ubwoba.
Je vous rappelle que la prière de plainte n'existe pas.
Reka ngwibutse uko ryasengesho ryo kwidodomba benshi byabase.
Il y a pas de bureau des plaintes là-haut dans le ciel.
Ngijuru nta biro kwakira umwidodombo bihari.
Il y a uniquement un trône de la grâce. Dans le ciel, il y a un trône où la grâce coule. La grâce, c'est faveur imméritée. Et Dieu te dit, viens. Approche-toi de moi. Je suis ton père, je t'aime. Mais tu t'approches au nom de Jésus. Le nom de Jésus te donne une autorité légale de pouvoir t'approcher du Père et d'être secouru dans tes besoins.
Ce
n'est pas moi qui l'invente, c'est la parole de Dieu. Ça fait partie de notre héritage.
Et
Jésus t'a sauvé et t'a ouvert une relation avec le Père. Et rappelez-vous, quand vous louez, quand louez Dieu, nous pouvons louer le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous pouvons adorer le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais la Bible nous montre clairement quand nous demandons quelque chose à Dieu, nous devons demander au Père au nom de Jésus. Respectez cela, vous allez voir. C'est sûr, quand on est bébé spirituel, nous sommes ignorants, alors nous prions Jésus, 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 Jésus.
Mais
la Bible nous dit de prier le Père, donc ça c'est le premier aspect où nous avons une autorité légale parce que Jésus a obtenu le nom qui est au-dessus de tout nom et donc nous pouvons nous présenter devant notre Père et être secourus dans nos besoins. Donc ça fait partie du message que Dieu nous donne dans Philippiens 2 où il nous montre que le nom de Jésus a une autorité dans les cieux. Ensuite, la deuxième chose que Philippiens 2 nous montre, c'est que le nom de Jésus a une autorité sur la terre. Et là, nous allons découvrir un certain nombre de choses à propos de cette autorité sur la terre. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une autorité ? Une autorité, littéralement, c'est un droit de commander. De prendre des décisions par rapport au domaine où nous avons l'autorité. C'est aussi de se faire obéir.
Il
y a une obligation d'obéissance. C'est aussi de faire appliquer la loi. Tes droits. Et tu as des droits en
Christ.
Donc il va falloir que tu apprennes à utiliser ton autorité pour que tes droits se font valoir, je ne sais plus en français, bref, je perds mon français. Faire valoir tes droits. C'est-à-dire que le style de vie que le Seigneur a pour toi puisse vraiment devenir une réalité. Et ça, ça t'appartient. Mais là, tu as un rôle à jouer. Si tu laisses les choses glisser entre tes doigts, tu perdras. Parce qu'il y en a un autre qui essaiera de te voler ta bénédiction. Par contre, si tu dis non, 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 J'ai des droits. Et je veux que ces droits soient appliqués. Et bien, ils seront appliqués. Mais là, tu as une part à jouer. Ça va être d'exercer ton autorité. Revenons au texte de Marc, chapitre 16. Et Jésus va nous dire la chose suivante. Voici les signes au verset 17 qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Il. Voilà. En mon nom, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Ça veut dire que tout ce que tu peux faire, si tu veux voir la puissance de Dieu agir, tu vas le faire au nom de Jésus. Ça veut dire que tu as une procuration d'utiliser son nom. Donc tu as un droit légal. Une procuration, c'est le droit d'agir à la place de quelqu'un pendant son absence. Si tu as la procuration sur un compte, ça veut dire que la personne souvent est partie dans un autre pays, mais te donne un droit de faire un certain nombre de choses. Et là, tu as la procuration d'utiliser le nom de Jésus et de faire un certain nombre d'œuvres sur cette terre. Et la Bible nous montre qu'il y a un certain territoire, un certain rayonnement sur notre autorité. Et là encore, il faut être équilibré. Il faut que tu fasses attention là où Dieu te donne autorité pour exercer ton autorité. Mais tu ne peux pas exercer c'est ton autorité là où le Seigneur te montre que tu n'as rien à faire de spécial. Alors quels sont les différents domaines où nous pouvons exercer notre autorité? C'est particulièrement d'abord sur le domaine des circonstances. Les circonstances qui s'opposent à nous. Souvent dans la vie, nous voyons des circonstances qui sont contraires à ce que la parole de Dieu dit. Ça peut être par exemple des maladies. Vous savez, Jésus, il a souvent exercé son autorité sur les maladies. Jésus, de temps en temps, s'est adressé au Père. Mais très souvent, il a ordonné, il a parlé aux maladies. Il a ordonné aux maladies de quitter les corps. Et ça, vous pouvez le faire. Sur vous-même. Vous avez autorité sur votre propre corps. Mais aussi la Bible nous dit qu'en son nom, nous imposerons les mains aux malades et les malades seront guéris. Là aussi, tu as le droit de le faire, tu agis selon ta procuration. Et là, tu vois les résultats des malades guéris. Il y a des montagnes, des fois, dans la vie spirituelle. Je vous rappelle qu'une montagne dont Jésus parle d'ailleurs dans Marc 11, entre autres, ce sont toutes les circonstances qui s'opposent à nous. Ça peut être des circonstances financières. Ça peut être tout un tas de mauvaises circonstances qui sont là. Et tu sens que ce sont des choses qui sont bizarres. Tu peux te tenir. Et tu dis au nom de Jésus, circonstance, ça suffit. Tempête, ça suffit. Ça, tu as le droit de le dire. Tu sais, exercer l'autorité, c'est pas la peine de s'énerver. Il y a des gens qui crient tellement fort au nom de Jésus qu'après ils ont des maux de gorge terribles parce qu'ils se sont bousillés la gorge. C'est pas ça. Jésus n'était pas en train de crier sur toutes les mauvaises circonstances. Souvent, j'ai remarqué que les chrétiens qui crient très fort, ce sont les chrétiens qui sont le plus impressionnés par leurs circonstances. Et qui pensent qu'avec leur grosse voix, ça va faire bouger les circonstances. C'est pas ça la foi. Vous pouvez très bien être dans la foi et parler très calmement.
kwizera ukavuga buke buke
kandi voir les résultats les plus importants.
Ibyo bintu bikakumva kandi ukabona inyishu ivamwe.
La foi c'est pas aller crier sur les circonstances.
Ukwizera rero sukuja kukoma induru kubyo huye navyo.
C'est ordonner aux circonstances de se courber.
Ukwizera no gutegeka ivyo
bintu bicabugufi. Par rapport à la parole de Dieu et laisser la parole de Dieu régner sur
vous. Biwanye ijambo ry'Imana maze ijambo ry'Imana rikaganza kuri ivyo bintu huye navyo.
Ça c'est un domaine très important que les chrétiens oublient souvent.
Ikindi kintu gihambaye abakristo bakunze kwibagira.
Il prie comme je disais tout à l'heure dans les finances.
Mais
il ne parle pas la parole de Dieu. Alors qu'il faut apprendre à parler la parole de Dieu et à exercer notre autorité spirituelle. Tu déclares la parole de Dieu par rapport à tes circonstances. Tu ordonnes le résultat. Donc en fait, tu exerce ton autorité spirituelle. Et si vous parlez le résultat, vous êtes en train de prophétiser sur votre avenir. Maintenant, si vous parlez toute la défaite, toutes les mauvaises circonstances, oui, tu es aussi en train de prophétiser sur ton avenir. Avenir de défaite et de malheur. Donc, méfie-toi. Donc, ce domaine d'autorité, tu l'as, tu peux parler sur les choses, les circonstances. Et tu peux tout à fait voir des résultats. Tu peux guérir des malades. Tu peux voir des situations être complètement changées. Ça, c'est l'autorité que tu as. Un autre domaine où nous devons exercer notre autorité, bien sûr, c'est contre l'ennemi. Alors là aussi, il faut être équilibré. Dans Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15, la Bible nous enseigne à propos de ce que Jésus a fait. Là, il ne faut pas faire n'importe quoi parce qu'il y a des chrétiens qui font n'importe quoi. Vous savez, souvent, malheureusement, les chrétiens qui poussent des doctrines à l'extrême nous créent des histoires. Il y a longtemps, on l'avait vu avec le parler en langue, le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue. Il y avait des fois des gens qui priaient en langue et qui se vantaient d'être pentecôtistes ou charismatiques. Et ils vivaient n'importe comment. Et les gens qui ne croyaient pas dans le parler en langue disaient, vous voyez bien ces gens, ces parleurs en langue, là, ils font n'importe quoi. Et ils disent que ça vient de Dieu, mais c'est pas possible, ça vient du diable.
Vous
voyez, souvent les gens qui ont amené des mauvais exemples salissent des vraies doctrines de la parole. On peut parler des finances et du message de la prospérité. Il y a des gens qui ont fait n'importe quoi avec et qui amènent du discrédit sur ce message. On pourrait parler de la guérison divine. On peut parler aussi de la délivrance. Quand les gens commencent à faire tout et n'importe quoi, cela pose énormément de problèmes. Donc c'est pour ça que nous devons savoir qu'est-ce que la parole de Dieu dit. La Bible nous dit dans Colossiens 2, versets 14 et 15. Il est dit, il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'elle à la croix. Donc ici, la Bible va nous montrer.
Il
nous montre clairement que Jésus a dépouillé de leur autorité les puissances démoniaques et Satan. Satan a été vaincu à la croix. Maintenant, si tu veux que ce soit effectif dans ta vie, il va falloir que tu saches exercer ton autorité correctement. Parfois, nous nous retrouvons dans des situations un peu bizarres. On sent qu'il y a des choses qui nous tournent autour. Des circonstances qui sont anormales. Ou vous voyez une personne qui est là, qui apparemment n'a rien contre vous. Et d'un seul coup change complètement et pendant des mois et des mois, elle ne cherche qu'une chose, c'est à vous détruire. Tout ça c'est de la manipulation par mauvais esprits.
Mais
avant de dire qu'il y a des mauvais esprits derrière tout ça, il faut avoir du discernement.
Ce n'est
pas parce qu'une circonstance est mauvaise que forcément le diable est derrière. Des fois, c'est nous qui sommes derrière. Parce qu'on s'est mis nous-mêmes dans des problèmes. Et on essaye de blâmer le diable pour notre propre responsabilité. Et ça, par contre, ce n'est pas bon du tout. Ça, c'est un abus qu'on dénonce. Mais il y a des moments où l'ennemi nous cherche des histoires. Parce qu'on commence à porter des fruits, parce qu'on commence à frapper dans le royaume des ténèbres, évidemment, Satan n'est pas content. Donc qu'est-ce qu'il va essayer ? Il va essayer de miner le terrain tout autour de ta vie. Des gens qui ne sont pas spécialement des ennemis, qui ne seraient pas forcément des amis, mais des gens corrects, d'un seul coup, tournent dans les pires ennemis et essayent de tout faire pour te détruire. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça ? Des esprits sataniques. Alors est-ce que tu vas avoir peur? Peur de tout ça? Ou est-ce qu'au contraire tu vas dominer?
Et
tu vas apprendre à dominer. Quand tu discernes bien où est la source, très important de discerner la source. À ce moment-là, tu as autorité pour lier ces esprits démoniaques. Et pour dire au nom de Jésus, tous ces mauvais esprits qui essayent de manipuler cette personne, je vous lis dans le nom de Jésus et vous n'aurez aucun impact dans ma vie parce que c'est le royaume de Dieu qui a un impact dans ma vie.
Et
croyez-moi, vous verrez des situations changer comme ça, transformer comme ça, parce que vous exercez votre autorité spirituelle. Quand vous sentez ce genre de choses-là vous tourner autour, prenez votre position d'autorité. Là, nous parlons de l'autorité que nous devons exercer sur la terre. On a vu les circonstances parler aux circonstances et amener les circonstances à changer. Parler aux mauvais esprits et leur dire au nom de Jésus, je vous lis, si vous n'avez aucun impact dans ma vie. Ça, vous pouvez le faire. Maintenant, n'allez pas chercher des démons dans les chaises et dans les tables, il
n'y
en a pas. Ou dans tous les trucs, tous les moindres trucs, il y a des chrétiens qui cherchent des démons partout. Ayez du discernement. Jésus n'était pas en train de chasser des démons toutes les minutes. Non, il y a des origines pour certaines choses. Quand le Seigneur te montre clairement l'origine ou quand tu le ressens dans ton esprit, là tu y vas. Et là tu ne perdras pas ton temps et tu verras vraiment les situations être transformées. Alors là où nous n'avons pas autorité sur la terre, ce sont sur les esprits humains. Faites attention à cela. Ne dites jamais j'ordonne au nom de Jésus à telle personne d'être ma fiancée. Ça marche pas. Steve a essayé, ça n'a jamais marché. Oh, t'as jamais essayé, Steve.
Hein.
Donc ça vous ne pouvez pas le faire. J'ordonne à telle personne de me donner ça ou de faire ceci. Non. Ne faites jamais ça. C'est très dangereux. Ça c'est la sorcellerie. Déguisé. Ne jouez jamais à ça. Ultra dangereux. Ultra dangereux. J'ai vu des gens à jouer à ces genres de trucs. Croyez-moi, aujourd'hui, je ne sais même pas s'ils sont encore chrétiens. Bizarre, de ces gens. Très bizarre. Ce n'est pas scripturaire du tout. Donc, ne jouez pas à cela. Vous ne pouvez pas non plus proclamez que la jolie Mercedes de votre voisin vous appartient au nom de Jésus. Ça aussi, ça s'appelle la convoitise.
D'accord ?
C'est pas la foi, c'est pas l'autorité spirituelle.
Ce
sont les trucs bizarres que certains chrétiens s'inventent eux-mêmes. Ou des fois, un prédicateur qui passe et qui a une idée lumineuse, il faut le dire. Et les gens commencent à faire tout et n'importe quoi. Ne faites pas tout et n'importe quoi. Faites ce qui est dans le domaine de la parole de Dieu. Les gens qui fonctionnent avec la parole, ce sont les gens qui restent longtemps sur la piste. Les fanatiques font comme le cours de la bourse. Ils montent et dans un coup, pouf, ils tombent par terre. Beaucoup de gens sont comme ça. Pouf, pouf, pourquoi? Parce qu'ils s'attachent à une parole, quelque chose qui déforme.
Et après,
il y a plein de problèmes. Ils tombent eux-mêmes dans des problèmes. Troisième domaine où nous pouvons exercer notre autorité, c'est le domaine du salut. Et c'est là où Paul décrit sous la terre.
Je n'ai
pas le temps de vous montrer dans l'écriture, mais je tiens à vous dire une chose. Il est clair que sous la terre, au centre de la terre, se trouve l'enfer. Il y a plusieurs paroles de l'écriture qui nous montrent clairement que ceux d'abord qui vont au ciel parce qu'ils sont nés de nouveau montent directement vers le troisième ciel dans la présence du Seigneur. Ils vont dans la Jérusalem céleste, ils vont au paradis. Ça c'est très clair. Maintenant, ceux qui ne sont pas nés de nouveau, nous savons que lorsqu'ils meurent, ils descendent en enfer. La Bible d'abord nous dit toujours de descendre en enfer.
Nous dit
jamais de monter en enfer. Et la Bible est claire. Plusieurs passages de l'écriture nous montrent qu'au centre de la terre se trouve l'enfer. Ça c'est très clair dans la parole de Dieu, entre autres dans Éphésiens 4. Mais j'ai pas le temps d'étudier là ce passage. Maintenant, il y a une chose qui est sûre. Et il faudrait que nous ouvrions bien plus nos yeux et que le Seigneur nous aide à ouvrir nos yeux. Nous côtoyons tous les jours des gens qui ne sont pas sauvés. Et ces gens qui ne sont pas sauvés, sachez-le, ils vivent avec un danger permanent au-dessus de leur tête. S'ils meurent, c'est terminé. C'est foutu pour eux. Ils n'auront plus jamais de possibilité de salut. Le nom de Jésus a une autorité par rapport à l'enfer. Et pour une personne qui va se donner à Christ. Ça, il faut bien que vous le compreniez. L'évangile n'a pas été donné à prêcher aux anges. Ni même au Seigneur. Le Seigneur l'a prêché 3 ans et demi. Il est retourné à la droite du Père, nous l'avons vu. Et il nous a, à nous, l'Église, délégué cette mission. La mission de porter la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Et toute personne qui entend l'évangile, qui se repent de ses péchés, qui donne sa vie à Jésus, a une autorité légale au travers du nom de Jésus d'éviter l'enfer. Regardons d'abord ensemble Acte 4, verset 12. Acte 4, 12 nous dit: le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc le nom de Jésus a une autorité pour que les gens n'aillent pas en enfer.
Quand ils meurent.
Ensuite, quand nous lisons Jean chapitre 1, verset 12, c'est un passage qui est très important pour comprendre l'autorité du nom de Jésus par rapport à la délivrance du danger que les ténèbres ont sur les pécheurs. Chaque pécheur que nous côtoyons, frères et sœurs, a un danger constant au-dessus de sa tête. Si jamais sa vie biologique, la vie de son corps s'arrête sur la terre, c'est fini pour
vous.
Et dans Jean chapitre 1 verset 12, il est dit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, en parlant de Christ, La parole, c'est-à-dire Jésus, a donné le pouvoir, littéralement l'autorité légale en grec de devenir enfant de Dieu. Vous avez une autorité déléguée ici. Quand vous parlez du Seigneur à quelqu'un, vous avez une autorité sur l'enfer. Si la personne accepte Jésus, elle a l'autorité de devenir enfant de Dieu. Et ça sera une âme en moins pour l'enfer. Et Jésus nous a donné cette autorité. Dans le ciel, concernant la prière. Sur la terre, concernant les circonstances et les puissances démoniaques. Et sous la terre, pour éviter aux personnes qui ont ce danger permanent de leur péché, pour les amener à Christ, et elles ont l'autorité légale de devenir enfants de Dieu. Levons-nous ensemble, nous allons prier quelques minutes.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.